Les colloques du Collège de France.
Et je donne la parole maintenant à Hassan Shadi. Il est maître de conférences à l'Université de Lorraine où il enseigne la théologie musulmane. Actuellement, il travaille sur la reconstitution du codex coranique perdu de Ibn Mas'ud, réflexion autour de la pluralité du Coran dans les débuts de l'islam. Merci Hassan pour être ici.
Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier François Desroches pour m'avoir invité à ce colloque. Alors comme vient de le préciser Nouria, ma communication s'intitule « Remarques sur les variations textuelles coraniques des récits des prophètes Qasasul Anbiya ». Alors elle sera articulée autour de trois axes. Un premier mettra l'accent sur la question de la reformulation du texte coranique. Le deuxième mettra en exergue une série de variantes textuelles des Qasasul Anbiya. Et le dernier présentera un exemple de péricope coranique qui, dans un premier temps, semble être le fruit d'une transmission d'après le sens, puis dans un second, aurait été introduit a posteriori. Alors, tout lecteur du Coran est frappé par la quantité de récits des prophètes qui y figurent. Ces personnages bibliques, tels que Adam, Noé, Moïse, Abraham, Jacob, Jésus et bien d'autres, sont considérés par le Coran comme étant des messagers ou prophètes dont leurs récits, qasas en arabe, nous sont narrés dans différents endroits du texte coranique. On peut dire que ces récits sont répartis dans le texte coranique de deux manières. Alors certaines sourates renferment les récits de plusieurs prophètes, la sourate 7, la sourate 11, la sourate 26, par exemple. D'autres ne mentionnent le récit que d'un seul prophète, Joseph et Noé, par exemple, la sourate 12 et la sourate 71. Alors, ce qui attire particulièrement l'attention du lecteur, c'est que certaines de ces narrations très similaires, voire identiques par ailleurs, se répètent tout au long du texte. Par exemple, le récit de Moïse est mentionné dans 34 sourates. Le récit de la création d'Adam est quant à lui évoqué dans 7 sourates. Alors, chacune de ces narrations est fondée à quelques égards près sur le même thème, voire narème, unité narrative. On y relève en revanche des ajouts, des omissions, des rimes parfois différentes, mais aussi des éléments narratifs mentionnés de manière concise et parfois un peu plus développée. La question qui se pose est de savoir si ces récits seraient le fruit d'une transmission d'après le sens. Les traditionnistes, comme le rappelle Al-Khatib al-Baghdadi dans son Kifaya, fi ilmi usul al-riwaya, ont majoritairement autorisé à transmettre les hadiths selon le sens en se fondant sur l'argument suivant, à savoir que le Coran lui-même, qui utilise dans sa narration, par exemple du récit de Moïse, des termes différents pour désigner la même chose à divers endroits du texte coranique. Par exemple, pour désigner un tison, un morceau de bois enflammé, il utilise les termes suivants, al-qabas, al-jadwa, et parfois combine avec deux mots, shihabin qabasin. Alors, au-delà de ces variations lexicales, une des questions qui se pose ici est de savoir pourquoi ces variations textuelles narratives ne figurent-elles pas toutes au même endroit, comme on peut le retrouver pour l'histoire de Joseph ou de Noé, par exemple. Par ailleurs, la question fondamentale, qui est au cœur de la problématique, réside dans le fait d'identifier les origines de ces différents récits et les raisons profondes ayant conduit à la réitération, que l'on nomme « at-takrar » ou « at-ta'kid », de ces unités thématiques et narratives similaires dans le texte coranique. En rappelant ici qu'en matière de rhétorique et de stylistique arabe, al-balagha, le propos doit être élaboré autour d'une idée nouvelle et non de répétition. Al-aslu fil kalam, al-ta'sis, al-takrar. Alors certains travaux, dont ceux de Walker Jones, Sidorsky David, Alfred Witt Prémar, Roberto Tottoli, Guillaume Di, ainsi que Madame Chabbi, ont montré que des sources issues de la littérature judéo-chrétienne seraient probablement à l'origine de certains éléments narratifs des Qasas al-Anbiya. Néanmoins, il me semble que pour une partie des Qasas al-Anbiya que l'on trouve réitérés dans le texte coranique, il ne serait pas faux de penser qu'il pourrait s'agir d'une transmission d'après le sens. Alors, par transmission d'après le sens, il faut entendre que l'idée structurelle de la narration est conservée. Elle reste toutefois exprimée de manière différente, probablement en raison d'une mémoire faillible. Cette transmission semble être également caractérisée par une volonté d'en synthétiser, le récit en supprimant certains éléments narratifs, ou à l'inverse, à en développer d'autres. On peut également penser qu'il y a derrière une reformulation de cette expression coranique, une volonté de l'améliorer du point de vue rhétorique, syntaxique et stylistique. Par ce dernier, à savoir l'amélioration de l'expression et de la stylistique, c'est ce que j'entends par appropriation du texte coranique. Ayant déjà communiqué auparavant et de ce pupitre sur ce sujet, en l'occurrence autour d'une version inachevée du Coran, celle d'Ibn Mas'ud, sur laquelle donc je ne souhaiterais pas revenir, mais j'aimerais toutefois rappeler que si l'on se fiait à la tradition musulmane, l'injonction de rédiger les proclamations prophétiques selon le parler de Quraysh, donc la tribu notable de la Mecque, par le calife Uthman, est en soi une forme d'appropriation du texte. Alors, ceci dit, je souhaiterais vous présenter deux exemples de reformulation ou de rectification de la part des compagnons d'un propos prophétique tiré de la tradition musulmane. Alors, le premier de ces exemples concerne une invocation que le fidèle musulman effectue durant sa prière en position assise après les prosternations. Cette invocation s'appelle At-Tashahhud et se définit comme étant une profession de foi. Alors, deux éléments attirent particulièrement mon attention ici. Le premier est que le compagnon du prophète qui rapporte cette invocation n'est autre qu'Ibn Mas'ud, figure emblématique à la fois de la mémorisation du Coran et de la contestation de la vulgate uthmanienne. Ce compagnon aurait affirmé dans cette tradition que le prophète Mohammed lui aurait enseigné cette prière, cette invocation, au même titre que l'enseignement du Coran. Quel est le statut presque du Coran? Ce qui supposerait une transmission directe et l'invariabilité du texte enseigné par le prophète à l'instar du Coran. Ce qui pose en soi un problème puisque le texte coranique, mais également cette invocation, font l'objet de différentes versions d'un caractère protéiforme. Alors, le second élément qui interpelle est qu'Ibn Mas'ud modifiera, après le décès du prophète de l'islam, une phrase de cette invocation en la faisant passer d'un discours direct à un discours indirect, comme vous pouvez le voir ici. Donc, que le salut d'Allah soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Et la version d'Ibn Mas'ud après le décès du prophète, que le salut soit sur le prophète. Il a donc délibérément modifié cette invocation qui avait au moins le statut du Coran du point de vue de son enseignement. Bien que ce soit qu'une légère modification et qui n'a pas de réelle incidence sur le sens, on relève qu'Ibn Mas'ud aurait jugé nécessaire de modifier cette invocation qu'il tenait de la bouche du prophète car ce dernier n'était plus de ce monde. Alors, comme déjà annoncé un peu plus haut, un des points qui pose problème autour de l'enseignement de cette invocation supposée invariable est qu'il en existe plusieurs variantes textuelles qui remonteraient à différents compagnons tels que Omar ibn al-Khattab, Abu Moussa al-Ash'ari, Ibn Abbas, Aïcha et d'autres. Il en ressort tout d'abord que les compagnons du prophète, c'est-à-dire les autres compagnons qui auraient rapporté cette tradition, aurait également affirmé que le prophète de l'islam leur aurait enseigné cette invocation au même titre que le Coran. On y remarque que ces variations textuelles respectent le sens voulu de cette prière, à savoir la glorification et l'exaltation d'Allah. On y observe des mots qui sont soit intervertis, vous voyez entre celle d'Ibn Mas'ud et puis Abu Moussa al-Ash'ari, l'Illah pour Ibn Mas'ud est en début, ou en deuxième position après Tahiyyat, alors que pour Abu Moussa al-Ash'ari, elle est en fin de, après As-Salawat. Donc, soit elles sont interverties, soit on va avoir des ajouts. On va avoir le mot al-mubarakat, le mot zakiyat. Donc ces ajouts s'inscrivent dans le sens général de cette invocation. Alors, il y a d'autres exemples de traditions. Il y a également une autre invocation que je ne peux pas vous présenter ici parce que ça sera un petit peu trop long. Mais la prière de la consultation, également un des variantes textuelles qu'on appelle salat al-istikhara. Alors, maintenant, je voudrais vous présenter un exemple qui s'inscrit donc dans la continuité de mon propos autour d'une possible reformulation du texte coranique, et celle-ci concerne une citation prophétique autour du célèbre compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, mort en 662 ou 664, qui était un des porteurs du Coran. Alors, la tradition musulmane rapporte que le prophète de l'islam aurait écouté Abu Moussa al-Ash'ari réciter le Coran, puis il lui aurait dit « En vérité, il t'a été accordé un mizmar des mazamir de la famille de David, de Daoud. » Abu Moussa lui répondit « Si j'avais su, que tu m'écoutais, je l'aurais, alors je ne vais pas le traduire tout de suite, « la habbartuhu lak, je l'aurais perfectionné pour toi. » Tout d'abord, il est intéressant de relever la relation faite dans ce hadith entre le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari récitant le Coran et David, plus précisément en fait dans la tradition, la famille de David, qui chantait les louanges de Dieu à travers les psaumes. Alors, certaines traditions attribuent même un Coran à Daoud. Selon Al-Bukhari, Daoud était capable de lire entièrement le Coran en un temps extrêmement court, à savoir entre l'injonction qu'il donnerait de sceller sa monture et le scellage effectué par ses domestiques. Alors, faute de temps pour cette communication, je ne pourrais développer les problématiques que pose cette tradition et ses incidences du point de vue théologique, puisque l'on attribue ici à David un Coran, bien que l'on puisse le comprendre de manière extrêmement littérale, soit simplement une récitation. En revanche, je souhaiterais revenir sur deux termes cités dans cette tradition qui me semble être de grande importance. Il laisse effectivement penser qu'il aurait pu avoir, de la part des compagnons, en l'occurrence Abu Moussa al-Ash'ari, si on se fie à cette tradition, des améliorations rhétoriques et stylistiques du texte coranique. Alors, le premier de ce terme est le mot « mizmar », d'origine hébraïque, « mizmor », qui signifie à l'origine, selon le dictionnaire rabbinique de Ben Yehuda, « l'action de chanter », mais peut également signifier l'instrument qui accompagne le chant. Il s'emploie aussi pour désigner les différents chapitres des psaumes de David. Alors, ces textes de louanges adressés à Dieu sont d'expressions différentes. Une tradition musulmane attribuée au compagnon Ibn Abbas rappelle que le prophète David récitait les psaumes de 70 manières différentes, et les termes qui sont utilisés en arabe attirent particulièrement mon attention, sont les termes « lahnan » et « yulawwinu » que vous voyez. Oui. Alors, le sens du premier terme « lahn » est un sujet de controverse. Il peut effectivement désigner autant les différentes expressions ou parler qu'une erreur, comme il peut désigner des modes vocaliques. Pour Christian Pocher, la citation du prophète disant « En vérité, on t'a accordé un mizmar digne du mazamir de la famille de Daoud » est une déclaration sibylline qui prête à confusion, je le cite, « Cette appréciation s'applique-t-elle à un instrument avant du même nom ? Si c'est le cas, l'allusion soulèvera une contradiction inattendue, puisque le mizmar a été catégoriquement interdit par les docteurs de la loi. La confusion serait évitée si l'on donnait au mizmar le sens de belles voix, comme le proposent d'autres commentateurs. Le mizmar devient alors un synonyme de belle voix. Par conséquent, l'intention sous-jacente serait traduite en vérité, il t'a été accordé une voix aussi belle que celle de David. Et c'est même lexicographe, dit-il, conclut que le prophète aurait comparé la voix de Daoud à du mizmar. Donc, nos commentateurs reprennent alors la conception largement répandue sur l'analogie entre la voix et la sonorité du mizmar, mais à ce stade, les difficultés réapparaissent. En effet, si le prophète avait réellement tenté d'impliquer cette similitude, cela signifierait qu'il approuvait implicitement le timbre du mizmar, ce par quoi il aurait rendu l'instrument licite. Or, selon la majorité des canonistes du droit, il n'en est rien. La seule explication plausible pour Christian Pocher est donc que ses commentaires sont plus tardifs et seraient nés à une époque où il n'était plus possible de penser à la voix humaine sans l'associer immédiatement à un instrument à vent. Alors, la conclusion de Pocher est très intéressante, mais il me semble qu'au vu des acceptions sémantiques des différents termes employés, mizmar et tout à l'heure nous verrons le mot habbara, on peut y retenir un autre sens dans la mesure où le terme lahn peut aussi désigner une façon d'exprimer une idée de manière donc différente, particulièrement si l'on se fie à la tradition suivante attribuée à Omar, donc le deuxième calife de l'islam, qui dit « Certes, nous délaissons une partie des façons de réciter de Ubay, Al-Hal Ubay. » Alors pour le deuxième terme, « Lawana », qui littéralement signifie « coloré » ou « mélangé », les lexicographes, dont Az-Zubaydi dans son Tej al-Arous, rappellent que cette racine peut aussi désigner le fait de passer d'un style d'expression à un autre. Yutlaqu ala taghyir uslubin ila uslubin akhar. Ce qui abonde dans le sens de mon hypothèse. Alors, le terme habbara, donc le deuxième terme utilisé par Abu Moussa al-Ash'ari, est habbara. De la racine étymologique habara en arabe. Dans l'exégèse traditionnelle, ce terme est traduit par les termes belle voix. L'étude étymologique du terme habara permet d'établir que cette racine a des origines à la fois hébraïques, araméennes et éthiopiennes, donc le gaze ancien. En hébreu, cette racine trilitaire, habara, signifie initialement être lié, être joint. Alors, cette acception peut être expliquée dans notre exemple, par le fait que la manière de réciter d'Abu Moussa al-Ash'ari, bien que différente dans son expression, est liée par le sens à la révélation originelle faite à Mohammed. Cette racine peut également signifier composer, créer des mots, des phrases, écrire, versifier. Il en est de même pour l'araméen ancien tardif. Cette racine peut signifier composer, écrire, et donnera le terme encre en araméen et en arabe, qui se dit hibr. En gaze ancien, cette racine signifie colorer, mélanger, composer, comme nous l'avons vu un peu plus haut. Alors, rappelons qu'en matière de poésie, comme l'a souligné Gregor Scholler, l'amélioration du texte poétique était une attitude connue et répandue avant et durant les débuts de l'islam. Je le cite, outre leur projet de conserver la poésie, les transmetteurs souhaitaient préserver et si possible améliorer au cours du processus de transmission la qualité de ce qu'ils chargeaient, de diffuser. Un illustre poète, Rawi al-Hutay'a, se serait écrié peu de temps avant sa mort, pauvre poésie aux mains d'un mauvais transmetteur. Et Khalaf al-Ahmar aurait déclaré, une fois à son disciple al-Asma'i, les transmetteurs avaient jadis l'habitude de corriger les poèmes des anciens. Plusieurs autres témoignages viennent effectivement confirmer cette manière d'agir dès la naissance de l'islam. Nous avons le poète Ibn Muqbil, mort en 690, qui aurait dit « Moi j'envoie des vers courbés, puis les transmetteurs les redressent », c'est-à-dire les récitent sous une forme corrigée. Alors, maintenant je souhaiterais vous présenter quelques passages coranique ou quelques exemples de variantes textuelles des Qasas al-Anbiya, donc des récits des prophètes dans le Coran. Alors, le premier exemple concerne la variante textuelle canonique du récit de Moïse que l'on retrouve à la fois dans la sourate 2 et dans la sourate 7. Donc, vous avez ici, et on peut voir les... Ah oui, j'ai pas de pointeur. Non. Donc ce que vous voyez en jaune, il y a un petit peu les termes qui reviennent. Donc dans la sourate 2, on va avoir le même sujet. Donc nous fîmes planer sur vous la nuée et fîmes descendre sur vous la manne et la caille, manger de ces excellentes, des excellentes nourritures que nous avons attribuées. Donc on va avoir ici un discours direct, « Aleikum », alors qu'on va avoir dans la sourate 7, « Aleihim ». On va avoir également « وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ » qui est donc « Entrée dans cette cité ». Et on va avoir dans la sourate 7, « Et quand il leur fut dit, habitez cette cité ». Donc on va avoir des versions plus ou moins différentes, mais qui s'inscrivent dans le même sens. Ça, c'est pour les versions, donc un exemple de version canonique. Alors, je souhaiterais maintenant présenter quelques variantes textuelles extra-canoniques attribuées soit à Ibn Mas'ud, soit à Ubay Ibn Ka'b. Alors, bien qu'aucune trace matérielle de ces variantes textuelles n'ait encore fait surface, celles-ci sont particulièrement intéressantes pour l'histoire du corpus coranique en général, et plus précisément pour comprendre la transmission du Coran et ses variantes de lecture, et d'en identifier les origines. Alors, les exemples que je vous présente peuvent être répartis en trois groupes. On a des exemples de substitution, des exemples d'ajout, et des exemples d'omission. Alors là, par exemple, on a un exemple de substitution, donc dans la sourate 2, verset 36, on a ce passage qui dit « فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا » Peu de temps après, Satan les fit glisser de là. Et on va voir dans la version d'Ibn Mas'ud, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا que l'on retrouve dans la sourate 7, verset 20. Donc peu de temps après, Satan leur chuchota. Oui. On a un deuxième ici exemple, un exemple d'ajout cette fois-ci. Donc dans la sourate 11, verset 71, on a ce passage وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ donc traduction sa femme se tenant debout la femme d'Abraham. La version d'Ibn Mas'ud qui est intéressante, on n'a plus le mot imra'a mais on a cette fois-ci le pronom wahiya wahiya qa'imatun wa huwa qa'id elle se tenait debout alors qu'il était assis. Alors, encore un exemple d'ajout dans la sourate 20, encore avec le récit de Moïse, le verset 15, le passage dit « Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa » L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Dans la version d'Ubay, on a inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha min nafsi fakayfa udhhirukum 'alayha. On peut y relever une forme de redondance. Donc l'heure va certes arriver, à peine si je la cache à ma propre personne, comment pourrais-je alors vous en informer? Dans une version d'Ibn Mas'ud qui lui ressemble mais qui est exprimée d'une autre manière, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha min nafsi kayfa yu'allimuha les makhlouqs, ou ya'lamuha makhlouq. L'heure va certes arriver, je la cache à peine à ma propre personne, comment pourrais-je alors l'enseigner à une de mes créatures, ou bien on peut la lire différemment, comment une de mes créatures pourrait la connaître. On a encore un exemple dans la sourate 27, donc sur la tannum, les fourmis, verset 8, encore avec Moïse. Donc, فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ donc, quand il arriva à ce feu, il fut crié « Béni est celui qui est dans le feu et celui qui est autour, gloire à Allah, Seigneur des mondes ». Dans la version d'Ubay ibn Ka'b, on a fait deux versions. La première, فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ فِي النَّارِ quand il arriva à ce feu, il fut crié « Que soit béni le feu et celui qui est autour, celui que ce serait dû ». Gloire à Allah, Seigneur des mondes. Dans la deuxième version, quand il arriva à ce feu, il fut crié que cette terre soit bénie. On ne parle plus du feu. Et tous ceux qui sont autour parmi les anges. Gloire à Allah, Seigneur des mondes. Alors je vais essayer de faire un peu plus vite. Et un exemple d'omission, la sourate 11, verset 81. Donc, je vous laisse lire la traduction. Donc, قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم. Donc, et que nul d'entre vous ne se retourne, dans la version d'Ibn Mas'ud, on ne la retrouve pas. Alors, je voudrais passer maintenant à vous présenter un exemple qui me semble être une interpolation ou un ajout de péricope au sein du récit de la création d'Adam dans la sourate 38. Alors, il me semble qu'il est soit le fruit d'une transmission d'après le sens, donc d'un même texte, et qu'il aurait été donc par ailleurs introduit dans la sourate 38, probablement par erreur. On peut observer tout d'abord que le récit d'Adam entre la sourate 15 que vous avez sur votre gauche, je vous mets ici la traduction, et la sourate 38, et à quelques égards près, il est identique. Dans la structure narrative, dans les informations qui sont données, sauf qu'elles sont exprimées de manière différente. Alors, on y retrouve donc la même structure narrative, les mêmes rimes, la même terminaison, la même taille également de versets. Donc les rimes soit en « un », soit en « in », soit en « Alors, ce qui me conduit à penser que ce passage ne devrait probablement pas être à cet endroit réside dans deux raisons. Tout d'abord, sur la cohérence du texte et son agencement. Parce que si on le supprime, par exemple, et qu'on lit, ça se tient parfaitement. Alors, même si le début de ce passage fait référence à une cohorte d'anges qui se querellaient selon les exégètes, il me semble que si l'on supprime donc cette péricope, le texte du Coran me semble un peu plus cohérent et s'inscrit par ailleurs dans la composition argumentaire du Coran, comme on peut le retrouver dans d'autres occurrences. Autour de thèmes qu'il traite, à savoir la révélation, le fait de s'en détourner et la véracité des prophéties, en particulier celle de Mohammed, comme on peut le retrouver dans la sourate 6, mais également dans la sourate 26. Alors, la seconde raison se nourrit de l'exégèse coranique. Alors, selon les sources exégétiques, par exemple al-Tabari, la querelle de la cohorte al-Mal al-A'la, à laquelle ce passage coranique ferait référence, est celle qui aurait eu lieu entre les anges et Dieu, et non entre Dieu et Satan, comme on pourrait le trouver dans la sourate 38. Donc, le seul passage coranique faisant référence à cette dispute céleste est dans la sourate 2, versets 31 et 34. Ce qui me laisse penser par ailleurs, si un passage du Coran aurait dû être évoqué à cet endroit, c'était bien celui-ci que vous retrouvez là. Alors, en conclusion, pour faire assez rapidement, alors j'ai essayé à travers cette communication de mettre en évidence l'hypothèse que les ventes textuelles de Qasas al-Anbiya, pas toutes bien sûr, ayant la même unité thématique et narrative, seraient peut-être le fruit d'une transmission du Coran d'après le sens, voire d'une appropriation du texte coranique de la part des transmetteurs du Coran. Alors, l'exemple du Tashahoud montre que les Sahaba modifiaient le texte qu'ils avaient pu entendre de la bouche du prophète pour diverses raisons. On peut alors supposer à juste titre que des raisons d'ordre linguistique et plutôt théologico-politique auraient pu conduire à une modification du texte coranique. Les exemples de variations textuelles mettent en évidence, comme l'affirme la tradition musulmane elle-même avec le hadith des sept ahruf, des sept modalités d'expression du Coran, que la seule condition exigée durant l'apostolat prophétique et le début de l'islam fut de respecter le sens. Le Coran lui-même rappelle que l'interdiction faite aux prophètes ainsi qu'aux croyants, c'est de forger un verset en l'attribuant à la révélation divine. La sourate 6, verset 21 dit « Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses signes ? Les injustes ne seront point les bienheureux. » Nous avons un autre passage coranique, la sourate 69, verset 44-46. « Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous aurait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. » Il semble que dans les débuts de l'islam, exprimer la même idée avec d'autres termes en y ajoutant quelques passages ou quelques informations, ou en retirant quelques informations, était loin d'être considéré comme une forgerie. Sinon, que dire du Coran qui nous rapporte en arabe les propos de Pharaon, de Moïse, de Jésus et de Banu Israël ? L'exemple d'Abu Moussa al-Ash'ari permet de mettre en évidence que les compagnons jouissaient probablement d'une plus grande liberté d'interaction avec le texte du Coran, C'est effectivement avec la mise par écrit, puis avec le concept d'inimitabilité du Coran, l'i'jaz al-Qur'ani, que cette liberté fut interdite. Alors, la question d'Ikhtiyar, à savoir la sélection des ventes de lecture, est ici importante. Ce qu'on a pu nommer Ikhtiyar, qui s'est effectué grosso modo entre le 8e et le 10e siècle de notre ère, avec la sélection d'Ibn Mujahid, peut être mise en relation avec l'attitude des premiers musulmans avec le texte coranique. En ce sens, il ne serait pas impertinent de penser que les compagnons eux-mêmes aient eu recours à une forme d'irtiyar, à savoir de choisir, de changer, d'ajouter un mot ou un passage au texte coranique, tout en s'inspirant peut-être d'un autre passage, d'une autre occurrence coranique, d'un propos prophétique, voire de s'inspirer d'une tradition judéo-chrétienne. Le prophète de l'islam n'aurait-il pas dit « Aucun grief ne vous sera fait si vous rapportez des traditions des enfants d'Israël ?» Enfin, le cas de la péricope d'Adam introduite dans la sourate 38 montre à quel point l'étude des Qasas al-Anbiya sous le prisme des Qira'at est importante. Il semble qu'ajouter, omettre, synthétiser ou développer la teneur textuelle du Coran caractérise les modes de mémorisation et de transmission dans les débuts de l'islam. Donc, à défaut d'avoir présenté des résultats définitifs autour des origines de ces variantes textuelles de Qasas al-Anbiya, j'ai souhaité partager avec vous les premiers résultats de ce travail et vous remercier de votre écoute et attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.